Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Ce dimanche 23 juin, dans la majestueuse et imposante collégiale Sainte-Marie de Villefranche de Rouergue, et au cours d'une messe solennelle, Mgr Fonlup, évêque de Rodez et de Vabre, rappellera combien, par-delà les siècles, la consécration de la collégiale, le 24 juin 1519, engage toujours et encore les fidèles d'aujourd'hui. Année faste pour la capitale du Rouergue, qui en cette année 2019 célèbre un double anniversaire. Celui des 500 ans de la consécration de la collégiale, nous en avons parlé il y a tout juste 15 jours, et celui des 200 ans du Carillon. Un anniversaire qui, loin d'être mineur, est complémentaire et fait écho au précédent, qui a cœur de rassembler bien au-delà de la communauté chrétienne. Il en est de même pour les cloches et carillons, dont une double vocation, faire entendre la voix de Dieu et appeler les fidèles qui vont monter vers lui, prières et louanges. Mais les cloches rythment aussi la vie de la communauté en marquant les heures, les jours, les événements de la vie, ceux de la cité, les joies et les peines de chacun, comme nous le dirons Gabriel, le président de l'Association des Amis du Carillon, André, diacre et organiste, mais aussi Nicole, Françoise, Yves et Raymond, tous acteurs de ce double anniversaire, et que nous retrouvons dans la collégiale et jusqu'au haut du clocher.
Donc là, on continue à monter, nous allons... Nous dirigeons vers le clocher.
Mais je vais nettoyer les coursives.
Et là, nous allons découvrir le carillon, le magnifique carillon.
Là, on va dans la salle des cloches.
Salle des cloches. Combien de cloches, vous me dites déjà ?
48.
Et la 49e, elle est dans le clocheton en haut. C'est impressionnant. Hein.
C'est celle-là, la plus vieille cloche. Là.
Alors, la plus vieille. Qui s'appelle comment celle-là alors ?
C'est pas Marie-Thérèse ?
Non, Marie-Thérèse, c'est le Bourdon. Attends. Mais les autres cloches n'ont pas de nom, elles ont des parrains et des marraines.
Justine, elle est là, ça se voit qu'elle est plus neuve.
Justine, c'est la plus neuve. C'est moi qui
Justine. Et la plus ancienne, ça veut dire quoi ?
Celle-là.
Là.
C'est
la
plus ancienne,
non,
ça veut dire. C'est de quelle époque alors ?
1818-1819. Ouais. Voilà. Mais avant, il y avait des cloches. Dans ce clocher, et même des cloches importantes.
Mais elles ont été fondues à
la Révolution.
Marie-Thérèse de l'Enfant Jésus et Paul-Henriette.
Ouais. Mais c'est les parraines et les marraines.
Non, c'est son nom.
C'est son nom.
C'est son nom. Oui. Elle pèse
2,5 tonnes.
2 tonnes 5. Et elle a été baptisée le 10 octobre 1971. C'est écrit dessus comme le port salut, donc voilà.
Mm-hmm. Mais c'est celle que j'ai vue monter, moi. Et donc là, voilà, nous sommes dans les claviers du carillon.
Le carillon, vous voyez, il y a 48 cloches.
Alors expliquez-nous comment. Donc on joue,
49
voilà,
touches,
on joue avec les points.
Avec les points, voilà.
Non, c'est moi qui joue.
Alors, on joue comme ça. On donne juste un coup. Mais moi, j'ai pas le coup, Je vais pas faire.
Et il y a deux claviers, donc il y a deux claviers.
C'est l'équivalent des touches blanches du piano.
Et ici, les touches noires.
Touches noires, voilà.
D'accord.
Et en bas, les touches reprennent les touches du haut. C'est-à-dire que si je voyais, au pied, on reprend les notes les plus graves. Les
cloches, vous avez remarqué, le pédalier de l'orgue, il est absolument parallèle au clavier, alors que là, on a un décalage. D'accord. Difficulté pour... il faut une pratique différente.
Mmh. Voilà, mais on va laisser André nous jouer quelque chose.
La Villa Francata, c'est une chanson locale qui date des débuts du siècle.
1890.
Je disais tout à l'heure, lorsque je vous ai rencontré, que le carillon donnait l'identité sonore d'une ville ou de...
Oui, et d'une ville.
D'une ville.
De la cité.
De la cité.
Absolument.
Ici, on ne dit pas qu'on entend le carillon, on dit qu'on l'écoute.
Alors ça, c'est une chanson donc, de 1890, dis. Qui a été notée après en partition juste avant les années 50. Parce qu'il y
avait elle a été reprise.
Elle a été reprise, c'était une tradition orale au début.
Non, mais il y a la pratique. Sur le Villefranchois, il y avait la partition, mais adaptée au piano, pas adaptée au carillon.
Mais qui est beaucoup plus récente.
Ah non, 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 c'est... Là, moi, j'ai la photocopie du journal de 1890, là.
Allez, ça s'appelle la Villefrancato, et c'est donc... La...
Quand tu étais jeune, qui avait le carillonneur aveugle, je ne sais plus comment il s'appelait d'ailleurs.
Anglade.
Il jouait des airs profanes aussi.
Ah, il jouait des airs profanes aussi, oui, bien sûr. Oui. Bah, l'histoire raconte que le matin, après l'Angélus, il donnait la météo.
Oui.
S'il faisait beau, c'était réveillez-vous bien endormi. Si le temps n'était pas terrible, c'est une peu bergère. Voilà. Le soir, il avait un chant qui en gros. Le soir, il a dit en gros, vous avez bien travaillé dans la journée, vous pouvez avoir une nuit paisible.
Voilà.
Bien endormi. Voilà. Et à midi, c'était il y avait un ou deux airs religieux, mais il y avait derrière des airs traditionnels, populaires.
Le thème des cerises, je m'en rappelle.
Moi j'ai eu une histoire avec un touriste. Vous rendez compte, c'est le temps des cerises, mais vous rendez compte, c'est une honte, parce que c'est un chant révolutionnaire qui vient là.
Il y a un article qui apparaît sur la Dépêche il y a quelques années, qui disait qu'en 1942, il y a 3 ou 4... pas forcément Villefranchois, des gens qui étaient dans le coin, qui sont venus jouer l'international. On est à la barre des Allemands quand ils sont arrivés. Quoi.
Et qu'est-ce que je veux dire, Gabi, tu devrais lui raconter l'histoire de la grêle, et puis celui qui s'était endormi, qui est venu sonner l'Angélus alors qu'il était je ne sais plus quelle heure du soir.
Non, c'est l'inverse. C'est le carillonneur qui habitait à côté, Campano, qui est Boudou. Qui un jour s'est levé très rapidement pour venir sonner. Et puis le boulanger, il s'est aussi levé. Mon grand-père, c'était à Janemus, il était prêt à partir pour aller rejoindre le train. Et en fait, le carillonneur, il avait confondu 5 heures du matin, je crois, avec minuit. C'était minuit 25, quoi.
Oui. Alors, tout le monde est...
Aussi, on donnait les résultats des élections. Le carillonneur donnait les résultats des élections en jouant ce qui lui plaît, c'est le morceau qui correspondait à ses convictions à lui. Si c'était sa tendance politique qui avait gagné, c'était un air plutôt joyeux. Sinon, c'était le dies irae, la colère de Dieu, quoi.
Oui, il y a des choses assez cocasses.
Ah, partout, il y a des histoires. Ouais.
Mais c'est important de garder cette mémoire aussi, oui, de la transmettre.
Ce qui est vrai, ce qui est pour montrer l'attachement, c'est qu'il y a eu, par exemple, au moment de la Révolution française, il y a eu un révolutionnaire très ardent qui voulait démolir le clocher, raser le clocher. Et puis il y a eu une levée de boucliers de toute la population.
La mairie aussi.
Ouais, pour s'opposer à ça. Voilà.
Identité sonore de la Bastide, le carillon invite tout un chacun à pénétrer dans la collégiale. Et là, C'est la musique des orgues qui accompagne chacun dans son cheminement vers Dieu. André.
Alors moi je pense spontanément, quand on parle de musique dans ces lieux magnifiques, c'est cette parole du célèbre saint Augustin quand il dit « Celui qui chante prie de foi ». Alors je ne sais pas, mais moi je rebondis facilement sur ça parce que, évidemment, les orgues, il n'y en avait pas à ce moment-là, mais l'Église a toujours été portée dans un climat de prière avec le plein chant, avec toujours la musique a eu une part importante. Alors ici, on a ces deux instruments, dont le grand...
Mais l'orgue est rentré assez tard dans l'Église, je crois.
Alors c'est rentré... À partir
les instruments n'étaient pas bienvenus, je crois que c'était surtout la voix humaine.
C'était la voix humaine, ah, absolument. Ouais. Ici, alors, on a une trace dans cette collégiale d'un premier orgue qui était là au 15e siècle. Mmh. 15e siècle, donc, mais qui est un instrument qui a disparu et qui n'était pas là, qui était dans le transept. Et alors, donc, on a aucune trace. Cet instrument se trouvait dans le transept sur la petite chapelle à gauche. Il est resté là, d'ailleurs, l'instrument. Alors, cet instrument a disparu et il a été construit au début du XVIe. Je pense que c'était au début du XVIe, dans les années 1510 à peu près, un premier instrument qui était toujours là-bas, qui était un instrument relativement modeste, avec un seul clavier, avec 4 ou 5 jeux, donc avec des moyens. Il avait été mis là-bas, il y avait une raison. Parce qu'à ce moment-là, il y avait le collège des chanoines, qui était dans les stalles, qui était tourné différemment. Et donc, c'était au niveau de l'acoustique, pour entendre bien, c'était la meilleure position. C'était une des raisons qui sont évoquées, je pense qu'elle est bonne. Alors voilà, il y a eu cet instrument. Il y a eu ensuite des rajouts, bien sûr, au cours des siècles, notamment au XVIIe. Sur cet instrument, on a porté l'instrument, je crois, à une dizaine de jeux à peu près. Voilà. Et ensuite, ce qui a été important, c'est le transfert de ce premier orgue à la tribune qui est là. On est au XVIIIe siècle, à peu près. La date, je ne l'ai pas, mais c'est à peu près au XVIIIe. Et ensuite, au XIXe, il y a eu, en 1848 exactement, une étape importante, puisque cet instrument a été transformé par un facteur qui était d'une famille toulousaine, la famille des Puget. Voilà. Et il a été complètement rénové. Il a été reconstruit à la manière de l'orgue romantique, bien évidemment, avec un buffet complètement différent, qui n'a rien à voir avec le buffet actuel, dans une esthétique complètement romantique. Et il a été porté à 20 jeux, je crois, à peu près vers les années 1870. Donc un instrument qui commençait à être important. Et puis alors ensuite, il y a eu un entretien, mais assez épisodique. Donc l'instrument est tombé un peu dans un état qui devenait préoccupant. Et au début des années 1980, on a constitué cette association Amis des Orgues et du Carillon. Mmh. Qui a commencé à travailler à plancher sur les deux projets, ce qui n'était pas toujours...
L'orgue s'est têtu ?
L'orgue s'est têtu, et je me souviens, moi j'étais organiste à partir de 1978, on avait mis même, parce qu'on n'avait pas, on parlera tout à l'heure du petit orgue là, qui n'était pas là, on avait un harmonium et puis on avait installé un petit orgue électronique à l'époque, pendant quelques années, à partir des années... 90 à peu près, l'orgue s'était devenu inutilisable. Hein. Donc voilà, et alors ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est un orgue d'une vingtaine de jeux, mais qui est très, je dirais, très typé. Et les organistes qui passent, qui viennent pour des concerts ou qui viennent rendre visiter et demandent à jouer, ils sont tous émerveillés par cet instrument qui a beaucoup de caractère. Alors, effectivement, c'est un orgue complètement différent de l'orgue de chœur. Qui est, je dirais, qui a un tempérament de feu un petit peu, si je m'exprime. Ça veut dire que pour la liturgie, pour l'accompagnement, c'est un peu plus difficile. Mais pour jouer de la musique jusqu'à Bach et même un peu au-delà, c'est merveilleux. Et de la musique ancienne, c'est merveilleux. Ouais, d'ailleurs, on a eu quand même des concerts avec quelques grands noms. Et, ça a été,
c'est plutôt musique renaissance et baroque.
Voilà, renaissance jusqu'à la musique baroque. Voilà, pour le grand orgue.
les autres.
Fallait reconstruire un instrument qui soit le plus proche possible de l'esprit de l'instrument d'origine. Alors, à l'époque, ils ne voulaient pas mettre de jeu de pédales parce qu'il n'y en avait pas. Alors, il a fallu se battre pour rajouter. Parce que là, on a... Vous voyez, voilà le jeu de pédales qu'on a. On s'est battu pour avoir un 16 pieds, si vous voulez, pour avoir un jeu de son. Mais il a fallu... Vous voyez, avec une basse qui est quand même beaucoup plus profonde, beaucoup plus... Voilà. Après, il y a quelques parties, le jeu de tierces aussi, qui est en partie un jeu ancien. Et alors, des choses qui sont ce qu'on appelle l'accouplement des claviers à l'ancienne, c'est-à-dire, parce qu'habituellement, on a juste un système de tirasse, mais là, on a tout simplement ce qu'on appelle un accouplement à tiroir. Impressionnant.
Il n'est pas trop juste.
Ouais. Hein. Oui, mais
ça, là, ça dépend.
Oui, hein. Oui.
Mais c'est vrai que je comprends que les organistes qui viennent, qui découvrent l'instrument, ouais. ils sont vraiment, ils sont conquis, en général, hein, tous. Oui.
Chaque organiste doit s'adapter à l'orgue aussi.
Oui, parce que chaque instrument est unique.
Il est unique, donc c'est le...
Absolument.
Il faut l'apprivoiser.
Oui.
Oui.
Là, par exemple, pour le concert du 22 juin, l'organiste qui vient de Marseille, qui est quelqu'un de bonne pointure, mais il veut venir 3-4 jours avant pour découvrir l'instrument, pour essayer de voir au niveau des œuvres, parce qu'on ne peut pas jouer n'importe quoi. Là, on ne va pas jouer de la musique romantique, c'est évident, hein, c'est pas... Alors, quelques mots peut-être du petit orgue. Alors, ce petit orgue n'était pas là. Il était dans une église qui ne servait plus de manière régulière, qui était l'église Saint-Augustin, cet orgue que nous avons là. Une église qui ne servait plus, où cet instrument était en train de tomber aussi en abandon le plus total. Et puis, lorsqu'il y a eu donc l'arrêt du grand orgue, on s'est posé la question, on s'est dit, mais il faut quand même trouver une solution. Alors, il y a eu des oppositions, comme toujours, vous savez, quand il y a ce genre de projet. Mais finalement, on a réussi à le sauver. Il a été transféré ici à la collégiale, dans l'état. Je veux dire, bon, il y a eu quelques petites améliorations au niveau du buffet, parce que le buffet commençait. Et voilà. Et ça a été un bien, parce que cet orgue a permis de prendre le relais et il sert toujours de manière régulière pour la liturgie.
Pour la liturgie,
voilà,
oui.
Parce que c'est un orgue du 19e, c'est un orgue de Stolz, qui était un facteur des années 1870 à peu près. Hein. Alors c'est un orgue intéressant qui n'a évidemment pas les mêmes possibilités puisque c'est un orgue d'une quinzaine de jeux. Hein. Et on a aussi un récit incomplet. Donc ça veut dire que C'est intéressant, on peut accompagner, mais après, pour certaines pièces, c'est un peu plus délicat. Voilà. Mais en tout cas, c'est une chance ici d'avoir ces deux instruments qui sont différents, très différents, mais complémentaires.
Et complémentaires. Voilà.
Non, laisse, André va passer, on va aller dans la salle de l'horloge.
La salle de l'horloge, vous m'expliquez un petit peu. Donc,
alors ici, on parle de l'horloge qui a été à un moment au départ sur la maison des consuls, je ne sais pas où elle était exactement dans la ville. Il y a eu un grand incendie dans le quartier et la maison des consuls a été incendiée. Donc ils ont décidé en 1503 de placer l'horloge sur le clocher. Alors elle était au départ, il y a des photos qui la montrent au fin 19e, elle était sur le côté, c'était un petit cadran. Et puis au début du XXe siècle, ils ont mis un grand cadran et ils ont mis le cadran sur l'emplacement de la fenêtre. Mmh. Et donc ça a duré jusqu'aux années 2000 et quelques. Et à ce moment-là, il y a un architecte des monuments historiques qui est passé et qui a dit « Mais il faut enlever ce cadran, c'est une verrue, il faut retrouver la fenêtre d'origine avec les meneaux. Mmh. » Voilà. Et donc on a démonté ce cadran. Et on a aujourd'hui une belle fenêtre, mais on n'a plus ce cadran qui était d'un côté une verrue, de l'autre...
Qui marquait le temps.
Voilà. Alors c'est tout à fait, on peut rebondir sur ce que vous dites, parce que avoir la maîtrise du temps, c'est un pouvoir politique, un pouvoir économique, un pouvoir religieux. Ouais. Donc, et à Villefranche, les consuls avaient mis cette pendule sur cette horloge, sur la façade du clocher. Donc il y avait une sorte de consensus, quoi. En gros, tant religieux, tant civil, devait coïncider ou s'entendre. Il y a un côté un peu magique, un peu extraordinaire, d'arriver à deux pouvoirs a priori. Mais à Villefranche, il y a une histoire particulière, quand même. C'est-à-dire que c'est le roi qui a décidé de faire une bastide. Donc quand on faisait une bastide, on créait une ville nouvelle. Les gens qui voulaient venir, ils avaient un morceau de terrain pour faire la maison à la Bastide, un bout de terrain au bord de l'Aveyron pour avoir un jardin, et un bout de terrain sur les pentes pour avoir du bois. Ce qui fait que, dès le départ, les gens qui habitaient dans les paroisses autour, ils étaient intéressés. Et donc, ils sont venus. Mais l'évêque, lui, du coup, quand il y avait moins de paroissiennes, il perdait des revenus. Donc, il y a eu une guerre entre le roi et l'évêque.
Et l'église, enfin, locale.
Et l'évêque, oui. Et c'est vrai que Villefranche a toujours été... Moi, j'ai l'impression, un peu à l'écart de Rodez. On est toujours un peu méfiant. Il y a un côté un peu guerre.
Il y avait la protection royale, la protection
du voilà, 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 on était ville royale.
Ville libre, enfin.
Voilà. Il y a eu la sénéchaussée. Et puis après, au XVIIIe, XVIIe siècle, la ville de France a perdu ce pouvoir politique. Ça a été transféré à Rodez. Donc, voilà. C'est toujours une grande guerre.
Et maintenant, l'horloge est à l'intérieur, donc l'horloge.
Il n'y a plus d'horloge.
L'horloge n'est plus visible, et ici, dans cette salle, il reste juste le cadran.
Voilà.
Le cadran.
Non, mais bon,
les aiguilles ont été enlevées.
Non, elles sont à côté, elles sont rangées. Et disons que quand il va y avoir le réaménagement de la salle, il va peut-être être décidé de réinstaller ce cadran. On a un mouvement d'horloge qui est dans l'armoire à côté, qui doit pouvoir très bien piloter des aiguilles sur ce cadran. Voilà.
Pour l'instant, le temps s'est arrêté.
Exactement. Mais... ça va revenir. En attendant, la municipalité, enfin la mairie, quand ils ont refait la place, une fontaine lumineuse qui normalement donne l'heure. Mais c'est quand même très compliqué de lire l'heure sur le sol. D'abord, il faut être au-dessus pour bien le voir. Et puis bon, il faut...
Comme un cadran solaire, un peu.
Oui, oui. Non, il y a une série de G.
Ah, oui.
Et selon l'heure qu'il y a, il y a plusieurs G qui fonctionnent. Voilà, donc il faut pour lire l'heure, il faut lire l'heure, lire les minutes, c'est pas toujours évident.
Et tout au long de l'été, les manifestations vont se poursuivre. Conférences, visites, concerts, certains de carillon. Et d'ailleurs, un rassemblement exceptionnel de carillonneurs de toute la France aura lieu du 19 au 21 juillet à Villefranche-de-Rouergue.